Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, pas d'argent, mais des sanctions. Les victimes de Lactalis refusent d'être indemnisées par le géant laitier. Pour eux, c'est la justice qui doit trancher. Leurs représentants sont reçus ce matin à Bercy. De Fresnes aux Baumettes, en passant par Villepinte, partout les mêmes images ce matin de prison bloquée par des gardiens. Ils réclament des moyens supplémentaires après une nouvelle agression la semaine dernière. Elle s'excuse tout en assumant ses propos. Catherine Deneuve s'explique donc après la tribune sur la liberté d'importuner les femmes qu'elle avait signées. Elle demande pardon aux victimes qu'elle a pu choquer. Et à elle seule, précise-t-elle. À 8h20, le combat contre les ordonnances Macron est-il désormais derrière lui? Vous posez la question au patron de la CGT, Philippe Martinez. Il est votre invité, Nicolas.
Et vous aurez, vous, la parole vers 8h40. Le standard d'Inter est bien entendu ouvert 01 45 24 7000 pour toutes vos questions à Philippe Martinez.
Dans ce journal également, des étoiles jaunes et des brassards nazis en vente sur le Bon Coin. Le patron du site s'excuse. Fini le tirage au sort. La nouvelle plateforme d'inscription en fac est lancée aujourd'hui. À l'étranger, le pape qui repart en Amérique latine, mais toujours pas de visite chez lui en Argentine. Et puis à la fin de ce journal, fallait pas l'énerver. Un arbitre de Ligue 1 est sorti de ses gonds hier soir en tentant même un tacle sur l'un des joueurs. Mais d'abord un calvaire qui n'en finit plus, celui des civils syriens de la région d'Idleb. C'est la dernière qui échappe encore au pouvoir dans cette guerre sans fin, 340 000 morts. Mais la bataille finale est aussi l'une des plus sanglantes pour les civils. Les témoins racontent un déluge de feu lâché par les avions russes alliés de Bachar el-Assad. Et la population sur place n'a d'autre solution que la fuite sur les routes et en plein hiver. Omar Waman.
Pour échapper au déluge de feu, les civils n'ont pas d'autre choix que de fuir. Amar Salmo, un des chefs des casques blancs à Idlib, joint via la messagerie WhatsApp.
Plus de 100 000 personnes ont fui en direction du nord. C'est la plus grande vague de déplacés depuis le début de la révolution. Car les avions du régime bombardent sans arrêt. Ils ont même frappé des camps de déplacés.
Et pour ces milliers de déplacés, le répit se trouve plus au nord, le long de la frontière avec la Turquie.
Ces déplacés se dirigent vers la frontière turque où se trouvent des camps de réfugiés. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous saturés. Ils doivent donc dormir à même le sol car il n'y a pas assez de tentes. Il manque de tout sur le plan humanitaire.
Massés dans des camps de fortune, ces déplacés ne peuvent pas aller plus loin. La Turquie, qui ne veut pas d'un nouvel afflux de réfugiés, a fermé sa frontière. Thomas Garafalo, du Comité international de secours, joint à Amman, en Jordanie.
La frontière est fermée, elle est infranchissable. Et comme vous le savez, il fait actuellement très froid. Plus de la moitié de ces déplacés sont des enfants. Ils n'ont nulle part où aller.
Une inquiétude partagée par Ankara qui a exhorté la Russie et l'Iran à faire pression sur leur allié syrien afin de mettre un terme à cette offensive. Beyrouth, Omar Waman, France Inter.
Toujours à l'étranger, encore un bain de sang ce matin à Bagdad, la capitale irakienne, frappée par un double attentat suicide. Deux kamikazes ont fait exploser leurs bombes sur une grande place du centre-ville. 26 morts d'après les premiers bilans.
Des excuses, Marc, et des explications.
Catherine Deneuve répond aux critiques ce matin, une semaine après avoir signé une tribune dans laquelle elle dénonçait le puritanisme ambiant et défendait pour les hommes une liberté d'importuner les femmes. Cette fois, c'est dans une lettre publiée par Libération que l'actrice présente ses excuses, je cite, « à toutes les victimes d'actes odieux qui ont pu se sentir agressées par cette tribune. Tribune qu'elle assume, dit-elle, c'était un texte vigoureux à défaut d'être parfaitement juste. » Enfin, elle prend ses distances et critique très durement l'une des autres signataires, Brigitte Lahaie, qui avait affirmé qu'une femme pouvait avoir un orgasme durant un viol. C'est un crachat au visage des victimes, conclut Catherine Deneuve. Alors a-t-elle convaincu cette fois? Pas vraiment, si l'on en croit Raphaël Rémy Leleu du collectif Oser le féminisme, interrogé par Fanny Bouvard.
On voit encore dans le discours de Catherine Deneuve une mécompréhension de ce qu'est le discours féministe, de ses objectifs, et encore des points comme celui de la délation, alors que nous, tout ce qu'on demande, c'est de se débarrasser de la violence qu'on subit en tant que femme. Donc, on ne sera pas d'accord avec Catherine Deneuve, visiblement. Mais je trouve ça bien au moins de reconnaître qu'il y a eu des outrances dans les tribunes précédentes. Puis après, le débat continuera sûrement. De notre côté, Oser le féminisme, on aimerait bien à la fois sortir de la manière de présenter les choses qui a consisté à présenter ça comme un débat entre féministes. La tribune de la semaine dernière n'avait rien de féministe, ni comme une guerre des femmes, parce qu'on peut discuter, avoir des points de désaccord entre femmes, et pour autant, je crois que les hommes font ça tous les jours. jours, au quotidien, que ce soit en politique, en économie, dans les médias en général. Et jamais on n'a présenté ça comme une guerre des hommes.
Trop de violence et pas assez de moyens pour y faire face. Les trois principaux syndicats pénitentiaires appellent au blocage de toutes les prisons depuis 6 heures ce matin. Rassemblement signalé à Fresnes, Villepinte, à Meaux ou encore au Baumettes à Marseille. Un mouvement de solidarité avec leurs collègues de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, agressé jeudi dernier par un détenu islamiste. 60 euros pour s'offrir un brassard nazi, des casquettes d'officiers allemands ou même une étoile jaune portée par des enfants juifs. Voilà ce qu'on pouvait trouver jusqu'à hier encore sur le site du Bon Coin, jusqu'à ce que des internautes ne s'en émeuvent et que le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme n'intervienne pour faire retirer les annonces. J'ai été horrifié de les découvrir, dit le patron du site, qui promet à l'avenir de mieux surveiller ces annonces. Fanny Bouvard.
Dans la catégorie objets de collection du Bon Coin, on pouvait lire brassard allemand d'officier SS, étoile juive créée par le régime de Vichy, ou encore très belle casquette SS. Et à chaque fois, plusieurs photos. L'objet, sous toutes ses coutures, avec un morceau de scotch pour cacher les croix gammées. Mise en ligne samedi à la mi-journée, au moins trois de ces annonces étaient encore visibles dimanche à 16h. Toutes ont été déposées par le même vendeur qui s'est localisé dans le Val d'Oise, à Argenteuil. Toutes sont passées par les contrôles du Bon Coin, des contrôles automatiques, avec des algorithmes effectués en moyenne sur 800 000 annonces chaque jour. Il s'agit d'une grave erreur, reconnaît le PDG du site. Il a présenté ses excuses hier soir et assuré que les procédures de vérification vont être revues avec des ingénieurs. Il envisage également de se retourner contre le vendeur. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a lui déjà pris sa décision. Sa plainte sera déposée dans la matinée, tout comme un signalement auprès du ministère de l'Intérieur.
8h07, on ne veut pas de votre argent.
Les familles des victimes du lait contaminé chez Lactalis refusent les indemnisations promises par le patron du groupe Emmanuel Beignet, sorti de son silence hier, car pour elle, accepter l'argent signifierait la fin des poursuites judiciaires. Or, c'est la vérité que nous voulons, dit le président de l'association des victimes. Il sera d'ailleurs reçu ce matin par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Autre question, celle des conséquences de ce scandale pour le numéro 1 mondial des produits laitiers. Les consommateurs lui en tiendront-ils rigueur au moment de faire leurs courses? Pour les ventes de lait en poudre, il semble bien que oui, elles sont déjà en baisse, Claire Chaudière. Pour les autres produits, c'est un peu trop tôt pour le dire.
Si les ventes Lactalis sur toute la gamme lait infantile se sont bien effondrées ces dernières semaines, avant même la dernière vague de retrait, l'achat professionnel de l'étude de marché ayant eu accès à des chiffres confidentiels, pas encore d'informations sur une chute de cette ampleur pour les fromages et autres produits laitiers Lactalis. Mais la confiance du consommateur a bel et bien un prix, souligne Cédric Musso de l'UFC Que Choisir.
Il y a une forme de plus en plus de défiance. Nous, à l'UFC Que Choisir, certains consommateurs nous ont alertés en demandant quels étaient les produits Lactalis pour pouvoir choisir de les acheter ou non. Cela pourrait avoir un impact économique. C'est peut-être aussi ça que le PDG de Lactalis craint et c'est aussi la raison pour laquelle peut-être est-il sorti de son silence.
Un silence et peut-être aussi un déficit d'action qui pourrait nuire bien au-delà de l'entreprise elle-même, martèle Patrick Lagadec, ex-directeur de recherche de Polytechnique sur la gestion des crises, de par la tournure internationale qu'a pris l'affaire.
C'est la signature de la France sur une activité globale agroalimentaire. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et si la perception bascule du mauvais côté, c'est lourd, c'est long, c'est compliqué à remonter.
Dans l'histoire des crises alimentaires, il y a les pentes remontées en quelques semaines seulement et les chutes dont on ne se remet jamais véritablement. Le très secret patron de Lactalis doit encore espérer pouvoir rester dans la première catégorie.
Et au total, ce sont désormais 12 millions de boîtes de lait qui sont rappelées dans 83 pays. Rien ne va plus chez Luc Besson. Ses derniers films dont Valérian n'ont pas fait le plein dans les salles. Le cinéaste annonce ce matin qu'il taille dans ses effectifs 22 postes supprimés dans sa société de production EuropaCorp. C'est un quart des effectifs en moins. Le groupe Renault-Nissan deviendra-t-il aujourd'hui le premier constructeur automobile de la planète? Chiffre attendu dans une heure. Mais a priori, il devrait bien doubler en 2017 son grand concurrent Toyota et s'adjuger cette première place. Paris gagné donc pour le PDG de l'Alliance, Carlos Ghosn, aux manettes depuis 13 ans et qui s'apprête, semble-t-il, à laisser la place le mois prochain. Maxime Debs.
On est le 14 juin. L'an dernier, les actionnaires de Renault sont réunis en AG. Le matin, la presse diffuse des documents qui suggèrent l'existence d'un projet caché destiné à garantir un super bonus à Carlos Ghosn via une société offshore. L'affaire tombe plutôt mal au moment où les actionnaires doivent justement discuter de la rémunération du patron. Carlos Ghosn est attendu au tournant et d'un coup de volant habile, il retourne alors l'assemblée. Son salaire, 7 millions d'euros, quelques minutes plus tard est entériné. Carlos Ghosn, c'est d'abord ça, de l'agilité. Il a toujours su manœuvrer, que ce soit avec les actionnaires ou les salariés. C'est surtout un fin politique, analyse un expert de l'automobile. Renault a beaucoup plus délocalisé que PSA, qu'importe. Surnommé le cost killer, le tueur de coûts, il a fait comprendre au syndicat qu'il fallait faire un effort à un moment, tout en sachant toujours jusqu'où ne pas aller. Opportuniste et audacieux, Carlos Ghosn reste aussi l'homme qui aura misé sur l'électrique avant les autres avec la Zoé, au moment où les concurrents en ricanaient. Tout ça en fait un dirigeant rusé à part entière qu'il sera bien difficile de remplacer.
Au PS, on se bouscule décidément pour diriger le parti. Ce matin, c'est l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batteau qui annonce à son tour sa candidature au poste de première secrétaire. Ils sont cinq désormais sur les rangs. Fini le tirage au sort et place à Parcoursup, la nouvelle plateforme d'admission post-bac est lancée aujourd'hui pour tous les lycéens de terminale. Ils pourront faire désormais jusqu'à 10 vœux d'études au lieu de 24 jusqu'à présent et recevront surtout les réponses au fur et à mesure. Sonia Bourane est allée sonder les tout premiers utilisateurs de cette plateforme qui était présentée tout le week-end au salon post-bac à Paris.
Les élèves de terminale ont bien conscience qu'ils vont essuyer les plâtres cette année. Yasmine, Emel, Lauriane et Asma viennent de découvrir Parcoursup.
Ça ressemble un peu à APB, mais c'est mieux comme ça. Parce que je sais que l'année dernière, j'ai beaucoup de copines et tout qui se sont retrouvées avec sans rien. Par exemple, les licences, vu qu'ils ne sont pas sélectifs, c'était fait un peu aléatoirement. Et par exemple, il y a des gens qui méritaient leur place qui ne l'ont pas eu et des gens qui ne méritaient pas qui l'ont eu en fait. Ça me paraît plus juste.
On aura la place qu'on mérite, ce ne sera pas au tirage au sort et voilà quoi. C'est mieux organisé, il y a moins de vœux. Enfin, c'est déjà nous en tant qu'élèves, on s'y retrouve mieux, on est moins stressés.
Mais après, ça reste quand même une année de transition, donc on est quand même inquiet. On ne sait pas à quoi s'attendre.
Les professeurs aussi attendent de voir, tout comme les parents. Lisette, qui a connu APB pour ses aînés, veut être au point pour son petit dernier qui est en terminale.
Il y a des choses qui changent pas mal. Avant, il y avait 24 vœux, si j'ai bien compris. Maintenant, il n'y en a plus que 10, mais ils sont plus classés. Je pense qu'il faut trouver des solutions aussi pour que tous les élèves trouvent des places. Donc, il faut accepter le changement. C'est toujours préoccupant pour les parents, les élèves aussi, même s'ils ne le montrent pas toujours. C'est pour ça qu'il faut anticiper et bien maîtriser l'outil avant de valider.
Et pour valider, les élèves auront jusqu'au 13 mars. Ils recevront les premières réponses à partir du mois de mai.
Voilà, le site ouvre à 11h ce matin. Les inscriptions débutent lundi prochain et sur franceinter.fr, vous trouverez le mode d'emploi détaillé de cette réforme.
Il est 8h12, le Chili, le Pérou, mais toujours pas l'Argentine.
Le pape François entame aujourd'hui son 6e voyage en Amérique latine. Il en a visité presque tous les pays, tous, sauf le sien, l'Argentine, où il n'a pas posé les pieds depuis qu'il est pape. Officiellement, Mathilde Imberti, pour ne pas être récupéré par les autorités locales.
Au Vatican, tout le monde a en mémoire l'image de la rencontre entre le président argentin Macri et le pape François. Le visage fermé, l'air renfrogné du pape, sa poignée de main glaciale. L'ex-archevêque de Buenos Aires, depuis qu'il a été élu sur le trône de Saint-Pierre, cherche à se distancer à tout prix de la politique argentine. Certes, d'un président libéral comme Macri, dont il ne partage pas les positions, mais au-delà de Macri, c'est la peur d'être manipulé par les dirigeants qui le freinent, relèvent les observateurs comme Inès San Martín, journaliste argentine pour le site catholique Crux.com.
Quel que soit le président argentin, le problème du pape est qu'il ne veut pas être utilisé. Une fois, il a envoyé un message sur Twitter le jour de la fête du travail. Cela a été interprété comme s'il prenait position par rapport à une grève en cours, alors que c'était un message envoyé à 30 millions d'abonnés Twitter en 7 langues différentes. Mais il n'y a rien eu à faire. Selon la presse argentine, c'était un message pour son pays.
Le monde est plus grand que l'Argentine, avait malicieusement indiqué le pape François en 2016. Sa priorité, ce sont les périphéries, les pays en guerre, les minorités persécutées ou oublié. Ce voyage au Chili et Pérou auprès des populations indigènes en est une nouvelle illustration. Et s'il ne se rend pas en Argentine, il n'a pas non plus prévu pour l'instant de venir en France ou dans un grand pays européen. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Le pape qui va enchaîner les messes et les déplacements. 24 discours en une semaine avec plusieurs temps forts au Chili où il arrive la nuit prochaine. Il rencontrera les Indiens Mapuche avec une messe en langue indigène, visite également d'une prison pour femmes et rencontre avec des victimes de la dictature Pinochet. C'était le scénario noir. Il vient de se dérouler en mer de Chine. Le pétrolier iranien, qui était en feu depuis 10 jours, a fini par sombrer. Plus d'espoir désormais de retrouver des survivants parmi les 32 membres d'équipage. Et la crainte ravivée d'une marée noire, il transportait 130 000 tonnes d'hydrocarbures.
Et pour finir, Marc, un homme en noir qui voit rouge.
Des tacles et des mauvais gestes n'est pas ce qui manque sur les pelouses de Ligue 1. Mais hier soir, c'est un arbitre qui a craqué en plein match. Tony Chaperon tenait le sifflet lors de la rencontre entre Nantes et le PSG lorsqu'il a été bousculé involontairement par un défenseur nantais. Réaction immédiate et complètement épidermique. Il a tenté de lui faire un croche-patte avant de sortir le carton rouge. Jolène Rouet.
Une scène incroyable. Nous sommes dans le temps additionnel. Le défenseur de Nantes, Diego Carlos, se replace. Il bouscule involontairement l'arbitre de la rencontre, Tony Chaperon, qui tombe et tente ensuite, alors qu'il était en train de se relever, de crocheter Diego Carlos avant de l'expulser. Valentin Rongier, le milieu de terrain du FC Nantes.
C'est pas à moi de juger ça, mais en tout cas, c'est la première fois de, en Ligue 1 en tout cas, que je vois ça. Donc, on est souvent mis sous les projecteurs quand on fait quelque chose comme ça. Donc j'espère que cet arbitre sera jugé et puis qu'il y aura des décisions qui seront prises, parce que je trouve pas ça normal. En plus, c'est un match à 21h sur Canal+, il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a Paris, il doit montrer l'exemple aux jeunes arbitres de France, à tout le monde, même nous les joueurs, parce que la situation inverse, si nous on se permet de faire un geste comme ça, on peut prendre 10-20 matchs, donc voilà, qu'ils se remettent un petit peu en question.
Le geste de Tony Chaperon n'aura pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, même hors de France. Des internautes ont d'ailleurs modifié sa fiche Wikipédia, le faisant passer pour un combattant UFC, une importante organisation internationale d'arts martiaux mixtes. Nantes, Jolaine Rouet, France Inter.
Tony Chaperon qui sera bien jugé, on l'apprend à l'instant, fixé sur son sort aujourd'hui à l'issue d'une réunion d'urgence de la Commission fédérale des arbitres. On en oublierait presque qu'il y avait un match. Le PSG s'est imposé 1-0. Il compte ce matin 11 points d'avance sur ses poursuivants Lyon et Monaco. Enfin, un mot de Laurent de l'Euro de handball. Les experts déroulent. Deuxième victoire en deux matchs, 33-26. Hier soir face à l'Autriche, les Bleus sont qualifiés pour le tour principal et l'arbitre n'a taclé personne.
Merci Marc Fauvel.